On va lire deux textes ce matin que j'aimerais mettre en parallèle et regrouper. Dans le premier, dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, et puis c'est la traduction du semeur. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et puis dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, et on va lire quelques versets, jusqu'à 24. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Seigneur, nous te demandons que tu mettes de la clarté dans nos pensées ce matin, que tu puisses par ton esprit donner vie à notre raisonnement, à notre faculté de réfléchir pour que nous puissions réfléchir avec toi, penser avec toi, comprendre ta pensée, comprendre qui tu es et que ça puisse diriger nos vies, nous changer, nous transformer, faire de nous des hommes et des femmes qui savent dans quelle direction nous allons. Pourquoi, ce que nous croyons, et que nous puissions, en toute humilité, avancer, Seigneur, sur le chemin que tu as préparé pour nous. Merci pour ce moment, pour la possibilité de le vivre ensemble, et pour ce que tu veux construire en nous au travers de cela, Seigneur. Amen. Je reprends mon premier texte. Veillez donc avec soin sur votre conduite, comme, non comme des fous, mais comme des sages. J'avais déjà abordé un petit peu ce thème dimanche dernier pour ceux qui étaient là, sur le fait de pas forcément faire des bonnes résolutions comme on fait en début d'année, hein, mais en même temps avoir une vie intentionnelle avec des buts. On vise quelque chose, on veut aller quelque part. Connaissez mon image préférée, on ne veut pas vivre comme des concombres, encore moins des concombres de mer, qui sont à la fois des légumes et des mollusques. Ils existent, ils sont vivants. Biologiquement, ils sont vivants. Mais ils n'ont pas de but, pas d'intention, ils sont là, et puis voilà, et un jour leur vie s'arrête. Nous avons besoin, nous sommes appelés à autre chose. Veillez avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages, hein. Avoir les yeux, le cœur, l'intelligence, l'esprit en éveil. C'est ça, veiller, hein. C'est tellement facile de laisser se défiler les chevaux du temps. Et puis voilà, on mange, on travaille, on dort, on va, on allume la télé, on l'éteint, on verse le café, on le boit, on le sucre, on le remue, hein. Là-dedans, il y a toute notre panoplie chrétienne. On lit le petit feuillet le matin, on va au culte le dimanche, à la réunion le jeudi ou le mardi ou le mercredi, on lit la petite page, on dit, mais pff, ça défile comme ça. Non. Soyons éveillés. Et puis on a ce verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter. Le mot racheter, la notion de rachat, elle est au cœur de la Bible, au cœur des Écritures et au cœur de l'Évangile et de l'Ancien Testament aussi, et de tout le message, hein. Racheter. On avait été créé par Dieu pour lui, on s'est détourné et il nous a rachetés, hein. Le mot dit bien ce qu'il veut dire, c'est acheter une deuxième fois. Dieu nous avait fait, créé, donné la vie, on s'est détourné. Et il a payé encore une fois de sa personne, dans le sens propre, en donnant son fils, pour nous acheter, et j'aime pas le mot récupérer, parce que dans notre langue, il y a une mauvaise intention dedans, hein, mais pour nous retrouver. Nous sommes appelés à faire la même chose avec le temps. Pourquoi ? Lorsque l'homme a été créé, avant qu'il se sépare de Dieu, hein, et quand il vivait en harmonie avec lui, le temps lui avait été donné pour quoi faire ? Ben pour vivre, pour exister, et il vivait et il existait dans la conscience de la présence de Dieu. Dieu faisait partie de sa vie. Donc, c'était du temps qui était utilisé à bon escient, c'est du temps qui était à sa place. Hein. Le temps qui passait servait à Adam et Ève à connaître Dieu, à se connaître eux-mêmes, à se connaître l'un l'autre, à s'occuper du jardin, à faire ce qu'il y avait à faire dans la présence et la conscience de Dieu. Et donc ce temps, c'était juste une préparation à l'éternité qui est une autre forme, on peut pas le comprendre. Hein. C'est pas qu'il y aura pas de temps, mais ça sera différent. Et puis voilà, il était offert. Parce que l'humanité a fait le choix qu'elle a fait, nous avons perdu beaucoup de choses, mais entre autres, nous avons perdu le fait que le temps soit une chose utile pour nous. On a parlé ce matin de personnes plus âgées qui ont des difficultés de santé, et ça s'approche. Hein. Et puis on a parlé de Jimmy, qui est petit, qui arrive, qui est tout neuf, on dirait. Mais voilà, on commence comme ça, on en avance. Hein. Mais pour l'être humain, s'il ne fait rien, le temps n'est pas un ami. Que fait le temps ? Ben, il fait que, oui, d'accord, on grandit, on apprend des choses, mais on vieillit, nos tissus se dégénèrent, il n'y a rien qui va vers le mieux. Hein. Oui, on se développe, mais souvent, je dis de façon très peu romantique, un bébé qui naît, c'est une grenade qu'on dégoupille, c'est juste une question de temps. C'est horrible, hein, mais je le dis pour nous faire réagir, pour réfléchir. Dans le monde où nous vivons, le temps n'est pas notre ami. On devient moins souple, plus épais, moins si, moins rapide. Oui, on peut dire qu'avec le temps, on acquiert de la sagesse, avec les cheveux blancs, tagadi, tagada, mais ça, c'est des histoires qu'on raconte pour se consoler, hein. Moi, j'échange bien ma grande sagesse d'aujourd'hui pour ma forme de 20 ans sans problème. J'aurais pas perdu grand chose. D'accord. Mais surtout, le temps, si on fait rien, parce que à cause du péché, on est séparé de Dieu, le temps s'écoule sans qu'il soit transformé en quelque chose qui a du sens. La vie de l'être humain, c'est un petit peu comme le problème du jardinier. Moi, j'ai mon papa qui est jardinier. Même à la retraite, il a encore un immense jardin. Et chaque fois que je vais en séjour ou en vacances là-bas, je suis impressionné à l'âge qu'il a, été comme hiver, parce que chez nous, il n'y a pas de neige l'hiver. Il travaille tout le temps. Bon, il aime ça, hein. Il n'est pas obligé. Et ce qui m'impressionne, c'est de voir que, d'une part, il faut sans arrêt mettre de l'énergie pour faire pousser ce qu'il veut faire pousser, parce que seul, ça pousse pas. Et il faut mettre de l'énergie à empêcher de pousser ce qu'on veut pas qu'il pousse parce que ça pousse tout seul. Hein. C'est quand même terrible, quoi. Hein. Les tomates, les poivrons, les courgettes, les carottes, les concombres, tout seul, ils poussent pas. Il leur faut de l'eau, il leur faut de l'ombre, il leur faut du soleil, il leur faut de l'engrais, il leur faut ci, il leur faut ça. Il faut les semer, il faut les repiquer, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut les entretenir, les protéger des lapins, les protéger des chats, des corneilles, des oiseaux. C'est terrible. À côté de ça, les autres herbes qu'on veut pas, il n'y a rien à faire. On les enlève, on les détruit d'une façon ou d'une autre, qu'on soit bio ou pas, avec des produits ou à la mer, avec ce qu'on veut. Vous tournez le dos, vous faites ça, elles sont revenues. Encore et encore, toujours. C'est terrible. Mais ça, c'est comme ça dans notre vie. Si on ne fait rien, si on laisse juste le temps passer, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui n'est pas bon en nous se développe, nos défauts grandissent, nos qualités se développent pas. Si on n'a pas l'attitude du jardinier à se dire on doit sans arrêt être volontairement engagé sur deux choses, favoriser ce qui doit pousser, désherber ce qui doit pas pousser. Et c'est toujours à refaire, c'est jamais acquis, parce que les bonnes choses viendront jamais seules dans nos vies, Et les mauvaises partiront jamais seules non plus. On doit accepter ça. Lorsqu'il est dit « Veillez avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages », c'est de ça que ça parle. Si je pense autrement, je suis dans l'illusion. Cette idée que c'est la société qui fait que je suis mauvais, c'est l'environnement, c'est l'éducation, c'est mes parents, c'est mon nounours qui me regardait de travers quand j'étais petit. Oui, il y a des facteurs aggravants, il y a des choses plus difficiles, c'est vrai, il y a des terrains où ça pousse plus mal, mieux, moins bien. C'est certain, hein, je caricature bien sûr énormément, mais la vraie raison de tout, c'est que mon cœur est comme ça. Il produit naturellement ce qui est pas bon, il aime ce qui est pas bon, pas que, mais aussi. Hein. Et par contre, si je veux que la vie de Dieu se développe en moi, je dois faire des choix sans arrêt. Pas fabriquer, mais faire des choix. Racheter le temps, donc, c'est justement être conscient de cette situation et de se dire, le temps m'avait été donné, il m'a été volé, et je peux le récupérer. Les moments, les minutes, les heures, les secondes que je passe en pensant avec Dieu, c'est pas spécialement être assis le dimanche matin, là, sur cette chaise, hein. C'est tous ces moments de nos vies où je décide de vivre ma vie dans la conscience de la présence de Dieu. Au travail, à l'école, en prenant la douche, dans la voiture, avant de me coucher, en me réveillant. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qui est vécu avec Dieu, c'est un moment que j'arrache à l'absence de sens, à la vanité, au vide, à disparaître. Et je lui donne un sens. Et je l'engrange en moi pour l'éternité, parce qu'il va faire partie de moi dans la suite. Tout ce que je vis sans raison, sans but, sans réfléchir, toutes les fois où je suis dans le mode concombre, c'est pas que c'est mal dans le sens où j'ai pas forcément fait un acte qui était mauvais. Par contre, j'ai laissé se gaspiller du temps sans le racheter. Et c'est pour ça que on a une responsabilité vis-à-vis de ça qui est lourde. Et souvent on peut se dire, moi j'ai rien fait de mal. Voilà. Cette semaine j'ai rien fait de mal. Non, mais c'est sûr que c'est mieux que de faire le mal intentionnellement. Mais ça suffit pas de rien faire de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Et je parle surtout pas ici, alors à éviter le piège de l'hyperactivité, même si c'est l'hyperactivité, ou encore plus si c'est l'hyperactivité pour Dieu, sous prétexte qu'il faut pas gaspiller son temps. Je parle pas de se priver de sommeil pour faire des grandes choses pour Dieu. C'est pas du tout de ça que je parle. Au contraire, c'est de donner à chaque minute qu'on vit du sens, parce que je le vis intentionnellement avec Dieu. On a tous une activité professionnelle, sauf si on n'a pas le privilège d'en avoir parce qu'on est au chômage, ça arrive. Mais je vis mon activité professionnelle dans la présence de Dieu. Je m'occupe de mes enfants dans la présence de Dieu. Je vais faire mes courses dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on verra plus loin dans l'autre passage qu'il est dit « prier sans cesse ». C'est pas le fait de passer nos vies à genoux à réciter des choses, mais c'est de garder cette connexion. Et c'est pas naturel chez nous. On n'est pas naturellement connecté au, comme ça, paf, non. Quand je me lève, je suis connecté au mode gaspillage du temps. C'est programmé comme ça, sans défaut, toujours. Et c'est à moi de dire, hop, non. J'utilise l'interrupteur et je me connecte sur la bonne source. Et en faisant ça, je rachète le temps. Donc vous comprenez? Car les jours sont mauvais. Et le sens du mot mauvais ici, ça parle ni bien sûr de la météo qui serait mauvaise ou de quoi que ce soit. C'est un mot qui veut dire méchant et qui parle d'une méchanceté, je l'ai déjà dit, mais vivante et active. On a eu dans l'actualité de cette semaine une illustration du fait que les jours sont mauvais. Il y en a tous les jours sans qu'il se passe ces choses-là, hein. C'est plus visible ou plus discret. Là, c'était une provocation, quelque chose qui nous éclatait aux yeux pour qu'on voit la méchanceté des jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens intentionnellement se sont levés le matin en faisant des plans pour détruire. Et on a tous été horrifiés. Mais lorsque un trader quelque part se lève le matin et se dit « si je bloque mes tonnes de blé encore 3 jours, je gagne 20 millions de plus », sachant très bien que ça va faire mourir 20 millions de gamins quelque part en Afrique ou en Inde, c'est la même chose. C'est juste à une échelle supérieure. Et puis, il ne se salit pas les doigts directement. Il ne s'éclabousse pas de sang. Mais c'est la même chose. Les jours sont mauvais. Le monde dans lequel on vit, alors il y a les méchants visibles, presque caricaturales, avec leurs armes qui vont faire gicler les cervelles, c'est horrible. Mais il y a tout le reste, l'indifférence, ce besoin maladif, alors qu'on a déjà largement plus que ce qu'il nous faut, d'accumuler encore plus au détriment d'autres qui n'ont pas assez. Et on pourrait multiplier les choses, mais le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas juste mauvais parce que on fait pas assez le bien. Il est mauvais parce qu'il y a une intelligence derrière, et je parle même pas des hommes là au départ, qui veut que ça aille mal, qui veut que les hommes soient détruits. Jésus a été très clair là-dessus. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Et quand vous étudiez l'histoire, on est choqué aujourd'hui, mais j'ai juste terminé un très bon roman historique sur l'histoire des Cathares dans le sud de la France. Alors, peu importe que les Cathares aient été des hérétiques ou pas, on s'en moque. Mais quand on voit ce qui se passait, et c'était fait par l'Église officielle, mais nos terroristes d'aujourd'hui, c'était des amateurs. Béziers, 12 000 personnes, en quelques heures, femmes, enfants, vieillards, tout le monde étripé, violé avant, si pour, 12 000 personnes comme ça, en France, par l'Église, avec des gens qui portaient des croix et qui disaient des versets. Et puis on pourrait faire le tour de l'histoire, ça a toujours été comme ça, et c'est pas mieux aujourd'hui. D'accord ? Donc il faut qu'on se sorte cette idée de la tête que on a évolué, on est meilleur qu'avant, maintenant le monde il est gentil. Non. Le monde il est horrible, il est méchant, il est pourri, il est corrompu, et quand de temps en temps ça nous touche un peu plus près, on est horrifié. Mais c'est comme ça partout et tout le temps. Et c'est normal qu'on soit horrifié par ce qui se passe plus près. Comme je disais en discutant avec quelqu'un qui me disait « Ah, mais pourquoi on parle tant de ça et on n'a pas parlé assez de ce qui se passait au fin fond de notre pays ?» Quand mon fils a la grippe, ça me touche plus que quand 10 Chinois meurent du cancer. C'est triste, Ben, c'est la réalité. Pourquoi ? C'est dans ma maison. Et Jésus lui-même nous a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ben, mon lointain, ben, il a un prochain lui aussi. D'accord ? Donc, il faut aussi mettre les choses à leur place. Je trouve tout à fait stupide de maintenant être contre la réaction des gens. Oh, mais ils sont touchés que parce que c'est prêt. Évidemment, mais on est tous comme ça. Les maladies des enfants dans le monde et la maladie de ma fille, ça n'a rien à voir pour moi. On est humain, ou de mon voisin, ou de quelqu'un dans l'église, ou quelqu'un que je connais. Et plus c'est loin, moins ça nous touche. Il faut pas rêver, ça sera toujours comme ça. C'est pas qu'on doit être insensible, on fait ce qu'on a à faire. Mais les jours sont mauvais. D'accord ? Les jours sont méchants. Quand on le voit, quand on ne le voit pas, tous les jours, ce monde est fait pour que les riches soient plus riches, que les pauvres soient plus pauvres, que ceux qui ont du pouvoir en aient plus, que les forts écrasent les faibles. Et c'est comme ça partout, tout le temps, ça l'a toujours été, et ça le sera malheureusement jusqu'au bout. C'est pas une raison pour rien faire dans ce qui dépend de nous. C'est pas une raison pour être fataliste et ça me regarde pas, non, Mais c'est une réalité, et c'est justement pour cela que on doit racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. On a cette responsabilité. On peut pas dire, mais ouais, mais moi, j'ai rien de spécial à faire. Moi, après tout, moi, je suis honnête, je fais mon travail, je vis ma vie, je m'occupe de mes affaires. C'est bien. Mais est-ce que je participe, moi, à racheter le temps? Mes 24 heures à moi que j'ai chaque jour, est-ce que je les laisse filer entre mes doigts, et puis à la fin de la journée, je suis content parce que j'ai rien fait de mal. Aujourd'hui, j'ai pas péché. Ce qui n'est pas possible. Enfin, admettons, j'ai pas trop péché, en tout cas. Ouais, 2-3 petites mauvaises pensées. Mais, de toute façon, j'ai tellement travaillé, j'ai même pas eu le temps de pécher, quoi. Mais c'est un péché de laisser filer le temps sans rien faire de vrai, de valable, d'éternel, d'authentique, de beau. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit se réveiller. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul, et à son époque, c'était comme aujourd'hui, la vie n'était pas plus facile ou même pire. Hein. Je passe au deuxième texte, c'est pas dans la même lettre de Paul, mais c'est vraiment dans le même contexte. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ce qui mène une vie déréglée, réconfortez ce qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Ça a été dit par plusieurs personnes ce matin, David en a parlé aussi. On a besoin les uns des autres. Pour vivre éveillé, pour racheter le temps, pour avoir une intelligence spirituelle, pour comprendre la volonté de Dieu, j'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Régulièrement, je suis averti par des gens, interpellé, que ce soit fait intentionnellement ou pas. Hein. Des fois, parce que des gens me disent, tiens, c'est drôle, tu vis comme ça ou tu fais ça. Je dis, ah ouais, je passe à côté. Ou alors, parce que simplement, la vie des gens qui vivent différemment m'interpelle. Mais on en a tous besoin. Hein. Donc, avertissez, réconfortez. Ça aussi, si je vis pas éveillé, je vais pas réconforter les autres. Moi, je fais ce que j'ai à faire, l'autre, ils ont qu'à faire pareil, hein. Non. J'ouvre les yeux et je vois au-delà de moi qu'il y a des gens qui ont besoin d'être réconfortés. Soutenez les faibles. Pareil. Pour ça, il faut le voir, il faut le savoir, il faut le désirer. Je peux facilement passer à côté, j'aurais rien fait de mal. Non. Soyez patients envers tous. On a besoin de patience. Oui, mais ça fait 10 fois que je le soutiens. Ça fait 3 fois que je le préviens. Ça fait 4 fois que je l'encourage. Ouais, et ça fait combien de fois que Dieu le fait pour moi? Pouf, des millions et des millions. Soyons patients. C'est comme ça. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien. J'aime cette partie, vous avez. J'ai mis en bleu certaines choses. En toute occasion, recherchez le bien. Je me suis un petit peu disputé sur Internet et par mail et comme ça cette semaine, avec des réactions de chrétiens aux événements, qui se dissociaient de tout parce que, ah oui, mais ils n'ont pas les bonnes idées, ils sont pas parfaits, ils sont pas ci, ils sont pas ça. On n'est pas appelé à chercher ce qui va pas, on est appelé à chercher le bien là où il est. Quand des fois il y est, recevons-le, acceptons-le, ou tout au moins, ne nous sentons pas obligés de dire « Ah non, c'est pas assez bien. » C'est triste. Hein? Recherchons le bien. Effectivement, l'être humain, il n'est pas bon. Mais quand il y a quelque chose de bon, c'est tellement rare, on n'est pas obligé de suite dire « Oui, mais c'est pas chrétien, c'est pas parfait. C'est... » C'est pas comme ça que Jésus a agi en venant vers nous. Mais je ne développerai pas plus ça maintenant. Soyez toujours dans la joie. C'est pas une invitation à être superficiel, à une espèce justement d'euphorie bête parce que je réfléchis pas. Soyez toujours dans la joie, je me disais, on pourrait le traduire plutôt par refuser l'amertume et le cynisme. Quand il y a une mauvaise nouvelle, je saute pas de joie. Et la Bible me demande pas ça. Paul est pas idiot, Dieu sait très bien. Hein. Ah, quelqu'un a une grave maladie. Ah, super! Bon, c'est pas de ça. Mais on vit dans un monde, et beaucoup dans nos sociétés occidentales, hein, l'amertume et le cynisme font énormément de mal. Toujours, toujours, toujours. Jamais se réjouir de rien. Toujours trouver la mauvaise façon de le voir, la mauvaise intention qu'il peut y avoir derrière. Donc, évitons l'amertume, évitons le cynisme. Et puis, le passage d'après, priez sans cesse. Là, c'est un rappel sur comment vivre ces choses-là. Ben, c'est pratique parce que là, sans lunettes, je vois bien. C'est encore plus gros. Priez sans cesse. Comme je l'ai dit au début, rien à voir avec passer nos journées à genoux dans une grotte devant une bougie ou je sais pas quoi. Hein. C'est soyez toujours connectés avec Dieu. C'est, voilà. Ça se voit pas, c'est pas toujours à 100% conscient, parce que des fois on est concentré sur autre chose qu'on fait, c'est normal. Hein. Mais sans arrêt, on s'assure que ce lien est là, qu'on vit dans sa présence. On a le marathon de prière qui commence aujourd'hui. On a une semaine un peu spéciale où on va avoir l'occasion pour tous ceux qui le veulent d'aller passer 1 heure, 2 heures, plus, tant qu'on veut, dans un endroit spécial pour prier. Et je trouve que c'est un bon défi parce que je pense que tous ceux qui l'ont fait les autres années pourront dire la même chose. Quand on s'inscrit puis qu'on marque 1 heure ou 2 heures ou 3 heures comme ça, on se dit mais on va prier 1 heure, prier 2 heures. Mais chaque fois que j'y étais, j'en ai parlé avec ceux qui l'ont fait. Tout d'un coup, on regarde sa montre, on se dit waouh, déjà 1 heure et quart et j'avais dit 1 heure. Ou la personne après arrive, on l'a pas vu passer. Parce que prier, c'est pas réciter sa liste de courses à Dieu. C'est prendre du temps avec lui, pour lui, tranquillement, en réfléchissant, en méditant, en étant tranquille dans sa présence. Aussi en lui apportant des sujets de prière, bien sûr, de demande. Mais juste passer du temps avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, parce que c'est pas naturel, on ne sait pas le faire. Et puis c'est pas aussi quelque chose qu'on a trop développé dans nos conceptions de vie d'église où être chrétien c'est écouter le pasteur, faire des choses et puis aller à la réunion de prière. Hein, où là on va, Seigneur on te prie pour ta 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 et pour ta 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 et pour ta 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 ta. Ça peut avoir sa place, c'est pas mal. Hein, mais prier sans cesse, vous imaginez si ça voulait dire passer 24 heures par jour à dire à Dieu ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est une horreur. Non. Juste vivre avec lui, comme on vit avec des amis, avec un conjoint, avec nos enfants. Ils sont là. Hein. Vous savez tous la différence que ça fait quand vous êtes seul dans une maison ou vous êtes seul dans une pièce et il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Rien à voir. Hein. Vous rentrez chez vous, vous allez faire ce que vous avez à faire, il y a quelqu'un dans la maison. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps collé derrière, mais il est là, dans la pièce à côté. On l'entend, il vient de faire un café, il circule, il fait son truc. Et moi, je fais ce que j'ai à faire, mais il m'entend et je l'entends. On sait qu'on est là. Et du coup, je vis dans cette conscience. Et puis des fois, la personne est là et on l'oublie. Hier soir, Anne-Marie est rentrée du travail, elle avait travaillé toute la journée, c'était tard. Alors j'avais préparé le repas, j'avais fait tout bien pour quand elle arrive. Sauf que j'étais parti dans mes histoires d'Internet et puis j'étais sur mon ordinateur. Puis ça faisait 2 heures qu'elle était là, qu'elle mangeait, on ne s'était pas vu de la journée. Et moi, j'étais en train de mettre des messages, de répondre, d'écrire mon texte, il est bien, il est intéressant. Puis au bout d'un moment, en souriant, elle m'a dit, c'est rigolo, je me croirais à la pause au travail. Quand tout le monde est là avec son... Ils font des pauses, et puis chacun est sur son attel, et puis il n'y a pas un mot qui se dit, quoi. Et là, j'ai réalisé, je dis, quelle horreur, quoi, hein. Alors que ça faisait 2 heures que j'ai pensé qu'elle arrive, j'étais content de la voir, et puis elle est là, et je me disais, je fais ça tout le temps avec Dieu. C'est pas grave, hein. On s'en aperçoit, on repart, mais prier sans cesse. Remercier Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Là aussi, comme être toujours dans la joie, c'est pas le fait de, oh super, j'ai perdu mon boulot, oh super, je suis malade, merci Seigneur. C'est pas de ça. Mais c'est d'être dans l'acceptation de la volonté de Dieu. J'avais ce texte en tête quand Fred nous a donné des nouvelles de son épouse ce matin. Ça m'a frappé, c'était ça. Il se réjouit pas. C'est pas bien que Martha ait des problèmes de santé. On aimerait qu'elle l'ait pas, on espère que ça va aller mieux. Mais sa façon de nous le dire, c'était, voilà, cette situation est là, elle est dans les mains de Dieu, et on lui fait confiance, et je suis pas amer, et je lui en veux pas. Et j'ai confiance en lui. C'est ça, remercier Dieu en toutes circonstances. C'est pas se réjouir parce que ça va mal, hein. Mais ça va mal et je continue de lui faire confiance. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. L'Esprit de Dieu, on ne sait jamais d'où il vient, où il va, comment il parle, par quoi. Hein. Soyons ouverts. Pas n'importe quoi, on va le voir après. Hein. Vous avez vu qu'il y a des passages en noir, il y a des passages en bleu, puis il y en a en bleu et jaune, hein, pour ceux qui voient vraiment pas bien. Mais n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Faisons attention avec nos catégories, nos idées toutes faites, nos « je sais, oui, déjà, oui, ben moi j'ai l'expérience ». Soyons ouverts à ce que Dieu veut nous dire, avec intelligence, avec esprit critique, mais... Attention de pas, ne méprisez pas les prophéties, dans le même sens, hein. Dieu parle, d'une façon ou d'une autre. Ah non, mais moi je sais, oui, non, j'écoute. Et puis on arrive à cette phrase, ce texte que je trouve fantastique. Encore plus quand on pense à l'époque où ça a été écrit. Hein. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. S'il me fallait donner une définition de l'intelligence, je pense que c'est celle-là que je choisirais. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On est tellement loin de l'Église a dit, vous devez faire, le pasteur a dit, vous devez faire, les gens ont dit, il faut faire, mon grand-père a dit, il faut faire, ou l'autre a dit, il faut pas faire, non. Examiner. Le mot pour examiner parle de prendre un objet complexe et de le démonter en pièces simples. Hein. Si vous étiez mécanicien, examiner un moteur, c'est prendre le moteur et le réduire à l'état de pièces simples. En mathématiques, je ne saurais pas le faire, mais ça se fait aussi. Hein, prendre un truc complexe pour le ramener à des éléments simples. Dans tous les domaines que vous voulez, vous pouvez prendre les images que vous voulez. Examinez. Refusez les jugements en bloc. On vit à une époque où il y a un terme, je suis désolé, c'est pas un mot français, mais il n'y en a pas en français. On appelle ça le packaging. Hein. Alors, par exemple, vous avez un appareil et vous avez cassé un tout petit bout. Et vous voulez le changer, et vous allez au magasin, et on vous dit non, on vous vend pas la pièce, il vous faut racheter le tout. On vous oblige à tout racheter parce que vous avez, hein, j'ai perdu la petite mousse pour mon casque, mais je dois racheter le casque, le fil et le téléphone parce que la petite mousse pour le casque, elle se vend pas seule. On veut nous vendre tout en bloc. Mais ça, c'est pas trop grave, enfin, c'est embêtant, mais tant pis. Mais c'est comme ça avec les idées, hein. Les Suisses sont, les Français sont, les musulmans sont, les chrétiens sont, les évangéliques sont, un bloc, paf. C'est faux. Jésus a jamais fait de catégorie avec rien. Jésus fait des miracles, comment il fait? Une fois il crache par terre, il fait de la boue, il met sur les yeux. Une fois il dit un mot, une fois il dit rien. Une fois il touche, une fois il touche pas. Une fois il parle, une fois il parle pas. Il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas des malades. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas des juifs, des gentils, des... Il y a un être humain, il y a une situation, elle est unique. Et puis, le même être humain, la même situation, le lendemain, au même endroit, c'est plus la même. Parce que c'est un autre moment. Examinez toutes choses, démontez, voyez, réfléchissez. Gardez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais. C'est valable pour tout, dans tous les domaines. Ça, c'est l'intelligence et la sagesse. Moi, j'ai essayé de lire la Bible, il y a des passages que je comprends pas, donc je lis plus la Bible. Quand t'achètes de la viande, même la meilleure, tu jettes tout parce qu'il y a un bout de gras ou un os? Non. Tu jettes l'os, tu manges la viande. T'achètes un poisson, ah, j'ai jeté le poisson, vous savez pas quoi, il y avait des arêtes dedans, c'est dégoûtant. Ben non, j'ai jeté les arêtes, j'ai mangé le poisson. Hein? Là, on est un peu plus intelligent avec la nourriture, quand même. Mais voilà. J'ai acheté ce livre, eh ben, il faut pas le lire, parce qu'il y a des bêtises dedans. Évidemment, dans tous les livres, il y a des bêtises. Y compris dans la Bible, parce qu'on l'a tellement traduite, retraduite, machin, truc et tout, il y a des bêtises dedans, je suis désolé. Dans la pensée de Dieu, il y en a pas, mais dans les textes que nous avons, nous, il y a des erreurs, oui. Hein, parce que ça a été traduit d'après la compréhension d'un être humain qui change, il y a qu'à voir les différences d'une traduction à l'autre. Ça dit le contraire, presque, des fois, dans l'Ancien Testament, notamment. Hein. Et c'est pas le fait que la parole de Dieu est relative, c'est nous, d'accord? Mais il n'y a rien où tout est bon et tout est mauvais, ça n'existe pas, ni chez les êtres humains, ni dans les situations, dans rien, jamais. Mais nous, c'est trop compliqué. On préfère tracer une ligne. À droite, ceux qui ont raison, à gauche, ceux qui ont tort, même ma gauche et ma droite, je mélange. Je suis né à Ninive. Mais ça allait pour vous, du coup. Toujours. Non, j'examine et je garde ce qui est bon. Et peut-être je vais me tromper en gardant quelque chose qui n'est pas vraiment bon et en jetant. C'est pas grave, je dois toujours le refaire. Mais si on appliquait ça à tout, à nos relations, à notre réflexion, à la façon dont on observe le monde, bah du coup on serait éveillé. On ne vivrait plus comme des légumes. Parce que la télé a dit, non, mais, ah la télé a dit c'est pas bon, non, la télé a dit c'est bon, non. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Et dans une même phrase, il y a des choses vraies et des choses fausses. à nous d'être intelligents. Si Dieu nous a donné un petit peu de capacité pour réfléchir, c'est pas pour après dire, voilà, hein, il y a un bouton on, un bouton off, et puis il y a blanc et il y a noir, et c'est tout. Non. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, je développe pas plus, mais je pourrais en parler pendant 6 mois et plus. Ça me met tellement en colère qu'on puisse pas juste essayer d'utiliser cet outil que Paul nous donne, qui permet d'arrêter de couper les choses en deux, alors que c'est pas le cas. Hein. On fait tellement comme, vous savez l'histoire avec Salomon, les deux mamans qui avaient un enfant qui est mort, un qui est vivant, à qui il est, et puis celle dont c'est pas le fils, non, on le coupe en deux, la moitié pour chacun. Voilà. Les chrétiens aiment faire ça, hein. On coupe en deux, c'est juste. Non. Il faut qu'ils vivent, il faut réfléchir. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Rappelez-vous que saint, ça veut dire mis à part. Hein. Qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. On n'est pas que des âmes. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les âmes. Ah ben, c'est embêtant parce que Dieu, lui, il aime les âmes, les corps et les esprits. Non, on n'est pas que des âmes. Christ n'est pas venu comme une âme sur terre. Il s'est incarné, et il avait un corps, une âme et un esprit. Et nous avons un corps, une âme et un esprit. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant de voir les gens qui parlent tout le temps des âmes. Ce qui est important, c'est les âmes. Allez les voir le jour où leur corps est touché, qu'ils sont un peu malades. Tout d'un coup, c'est plus pareil. Hein? Non, on a un corps, et quand mon corps va pas, mon âme va mal. Et quand mon corps et mon âme vont mal, mon esprit, il est pas bien non plus. Et dans l'autre sens aussi, dans tous les sens, c'est lié. Hein? Donc, on n'est pas des animaux, on n'est pas juste un corps avec des besoins physiques, point à la ligne, mais on n'est pas des âmes désincarnées ou des esprits. Dieu a voulu que ces choses-là soient rassemblées, qui nous gardent esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a ce magnifique verset, j'aurais pu le mettre en jaune aussi et souligner en rouge, hein, mais j'ai pas fait. « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. » Ah, parce que ça faisait lourd à la fin quand même, hein. Toutes ces choses à penser, à réfléchir, on commençait de se sentir un peu mal. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Alors, est-ce que ça veut dire du coup qu'il n'y a pas à réfléchir, qu'il n'y a rien à faire, et que tout ce que j'ai dit avant c'est faux, parce que finalement, puisque c'est lui qui le fera, ben moi je me contente d'exister, et puis il fera ce qu'il veut. Si j'osais, je dirais Inch'Allah. Non. D'accord? Mais oui, c'est lui qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui va me donner la force si je la désire. C'est lui qui va me rencontrer si j'y consens. C'est lui qui... Ouais. Hein? C'est lui qui paye. C'est lui qui fournit l'énergie. C'est lui qui le rend possible. Mais c'est pas lui qui décide pour moi. C'est pas lui qui force, c'est pas lui qui enfonce la porte. C'est cette espèce de mélange qu'on peut jamais trancher, définir. Dieu est souverain, nous avons un libre arbitre, comment ça fonctionne, j'en sais rien, mais ça fonctionne. C'est à nous de vouloir, d'accepter, de choisir, de consentir. Et ça demande d'être éveillé, d'être intentionné, d'être intentionnel, de se réveiller en disant « oui, je veux que ». Et en même temps, sachant, je suis pas capable de le faire, j'y arriverai jamais, c'est pas grave. Mais il est fidèle, il m'a appelé à lui, et il peut faire que ça se fasse en moi. Petit à petit, progressivement, avec des échecs, avec, hein. Mais, c'est lui qui nous a appelés, il est fidèle, hein. Puis il n'y a aucune condition. C'est ce qui est bien. C'est pas, il est fidèle pour ceux qui, non. Tout ce qui a été dit avant, c'est vrai, mais maintenant, on l'oublie. Et on se rappelle que c'est lui qui veut le faire. Et tout ça, ça se met ensemble. Comment ça fonctionne ensemble? Je suis incapable de le faire fonctionner ensemble dans un système rationnel qui me dise comment ça marche. Mais je sais que sans lui, c'est pas possible. Mais je sais que si moi, je le désire pas, si je le décide pas, si je le veux pas, c'est pas possible non plus. Si quelqu'un sait comment ça s'imbrique, je suis intéressé. Mais je sais que quand on l'accepte, ça fonctionne. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Seigneur, on te demande que, avec tout ce que j'ai pu dire ce matin, que chacun puisse faire ce qu'on a dit, examiner, démonter et garder que ce qui est bon, même s'il ne reste pas grand-chose. Et puisse l'approprier et le faire avec toi. Aide-nous à racheter le temps que tu nous as donné, à l'estimer à sa juste valeur, que nous puissions vivre dans cette connexion à toi, à ta présence, à ta parole, à tes pensées, en se rappelant qu'on a besoin les uns des autres pour ça, et que c'est possible uniquement à cause de toi. Aide-nous à trouver la direction, à trouver les mots, à trouver la bonne attitude dans ces temps troublés où nous vivons, dans ces jours mauvais, et que nous puissions être la lumière, le sel. Pas ceux qui savent tout, mais ceux qui te connaissent, toi. Ceux qui savent où se trouve la réponse, pas en nous, mais en toi, dans ta personne. Merci pour ces moments, merci de nous garder, merci de nous conduire, de nous fortifier corps, âme et esprit, et de nous permettre d'aller de l'avant les uns avec les autres, et avec toi. Amen.